On va continuer l'étude sur Jacques. On a commencé à passer à travers du livre de Jacques. On va en avoir pour un petit bout, parce qu'on prêche une fois toutes les deux semaines. Il y a Bernard qui vient prêcher dans l'autre semaine. Puis il n'y a rien qui presse. L'important, c'est qu'on aille chercher de la nourriture spirituelle. Jacques, c'est très riche, les enseignements de Jacques, parce que quand tu te mets dans le contexte dans lequel les chrétiens étaient dans ce temps-là, pour ceux qui ne savent pas, Jacques qui a écrit l'Épître, c'était le frère du Seigneur. C'est une quinzaine d'années après que Jésus-Christ soit mort sur la croix, après la Pentecôte, après qu'il y a eu 5000 personnes à Jérusalem. Il y a eu des persécutions par la suite dans Jérusalem, puis les chrétiens ont été dispersés. Ils vivaient à Jérusalem, puis ont été dispersés. Puis Jacques a écrit sa lettre aux chrétiens dispersés, aux chrétiens qui sont dans la dispersion, à ceux qui vivaient des temps très difficiles. Comme je ne sais pas, vous avez vu des documentaires sur la ville de Petra, ça nous montre une falaise avec des trous dans, comme des grottes, puis avec des escaliers, là, puis c'était là que les chrétiens vivaient, dans des places comme ça, des catacombes qu'ils appellent, ou des grottes souterraines, ou des grottes dans des montagnes. Ils se cachaient de la civilisation parce que le monde civilisé rejetait les chrétiens, persécutait les chrétiens. Ils n'avaient pas le choix de se sauver. Ça l'arrive encore aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont fui leur maison aujourd'hui. Puis là, Jacques écrit sa lettre. On est encore au début, dans le premier chapitre. Puis il a parlé beaucoup de se réjouir dans nos persécutions, que Dieu, il veut qu'on regarde ça comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves qu'on a traversées. J'avoue qu'on n'est pas tous rendus à ce niveau-là, de toujours être joyeux dans les épreuves. D'habitude, les épreuves, ça l'attriste. Pour que ça nous rende joyeux, mais il faut que tu regardes les épreuves avec les yeux de Dieu. C'est pour ça qu'elle nous dit de demander la sagesse d'en haut. Parce que là, si tu n'as pas la sagesse d'en haut, tu penses toujours avec ta pensée humaine. Puis là, tu regardes la vie avec tes yeux humains. Fait que quand tu as des épreuves, tu vois pas le positif là-dedans. Tu vois juste l'épreuve, puis tu grandis pas. Mais si tu veux grandir, demande à Dieu qui te donne sa sagesse, puis de commencer à voir les choses avec la perspective de Dieu, avec la vision de Dieu. Pourquoi Dieu permet que j'aie des épreuves? Mais il y a un plan dans tout cela. Les chrétiens qui ont été dispersés, ça a permis qu'ils évangélisent partout où ce qui passait. C'est ce que ça dit dans les Actes. Quand ils ont été dispersés de Jérusalem, tout le monde, tous les chrétiens ont dispersé, sauf les 12 apôtres. Puis ça dit, ils s'en allaient en évangélisant dans les autres villes. Fait que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour le chrétien qui est obligé de quitter sa maison, mais c'est un bien pour l'œuvre de Dieu, parce que ça faisait grandir l'Église du Seigneur. Mais il y avait comme des périodes tranquilles, comme on dit, des périodes, tu as des saisons, ce que les fruits sortent, tu as des saisons qu'il n'y a pas de fruits dans un arbre, il y a juste des feuilles. Puis nous, on a une saison qui n'a même plus de feuilles, fait qu'il y a des saisons dans la vie. Fait que quand, dans cette saison-là, qui est en train de vivre 15 ans plus tard, il y avait du monde qui souffrait, des chrétiens qui souffraient. Le titre dans Jacques 1, le verset 12, c'est « Discerner et résister aux tentations ». On rentre dans cette partie-là là, de son épître. Faut qu'on ce soir, avec ce verset-là de Jacques, on va comprendre que les tentations sont des épreuves dans le but de nous ramasser des récompenses, puis aussi dans le but de nous fortifier. On a vu un peu, c'est dur à comprendre pourquoi Dieu permet que les chrétiens se fassent frapper, se fassent cracher dans le visage, ils font rire d'eux. Pourquoi Dieu permet qu'il y en a qui se font tuer? Ben, il y a une raison. Dieu, il a pas fait le plan de son histoire juste pour, mettons, pour dans le but de rire quand il nous regarde, puis il rit, puis il nous voit souffrir, puis il rit. Non, pas en tout. Dieu rit pas. Mais Dieu savait que c'était pour arriver. Dieu a permis que ça arrive. Ça a un but. Pourquoi que les chrétiens doivent souffrir? Ça a un but. Jacques, dans 1, verset 12, il dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tout de suite, là, en partant, y a-t-il des raisons pourquoi qu'un chrétien souffre? Pourquoi qu'un chrétien doit souffrir? Non, des fois ça peut arriver parce qu'il doute, mais il peut être un homme de foi et souffrir. Il peut être un homme engagé et souffrir. Pourquoi qu'on souffre? C'est des épreuves que ça nous dit dans ce verset-là. Des épreuves, on passe des tests. Qui nous teste? Mais ça, il y a différentes choses qui nous testent. On sait que le monde nous teste, le diable nous teste, Dieu nous teste. Même des fois, en chrétien, on se teste, mais on ne devra pas se tester. On n'est pas là pour voir si l'autre est vraiment chrétien, puis c'est de le pincer pour voir s'il va réagir. Entre nous autres, on est supposé de s'aider à passer à travers les épreuves, pas se donner des épreuves les uns aux autres. Jacques, il nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Ça veut dire qu'il est dans un temps de tentation, mais il la supporte, il résiste, il combat, il persévère, il lâche pas. Là, il dit, il est heureux, parce qu'après avoir passé le test, il va recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promis de donner à ceux qui l'aiment. Le mot tentation, il dit dans ce passage-là, le mot grec, il y a trois sens dans le Nouveau Testament. Parce que tout de suite, à la première idée, on dit une tentation, on pense tout de suite tenter dans un péché. On pense tout de suite que c'est le mot tentation veut dire ça, mais il n'y a pas juste ce sens-là. Il y a ce sens-là, mais le premier sens, le mot tentation, c'est une épreuve. Fait que tu pourras remplacer le mot tentation par une épreuve. Quand on voit le diable qui est venu pour tenter Jésus, c'est que le diable est venu pour faire une épreuve à Jésus. C'est le même mot, c'est le même sens. C'est de passer un test. Une tentation, dans un des sens, là, c'est un test. Soit le diable ou le monde ou le Dieu lui-même permet qu'on aille dans notre vie, puis ça a un test pour voir si on va résister, si on va abandonner, un test si on va aller chercher les ressources qu'il faut pour avoir une foi qui grandit puis qu'on passe à travers par la foi, parce qu'il y en a qui ont abandonné dans leur test. Mais c'est une expérience, c'est une épreuve, c'est un test, ça s'appelle une tentation. C'est le même mot grec pour cela. Comme dans le sens d'épreuve, là, ce qui est fait pour ma condition corporelle comme pour condition à servir à éprouver l'amour des Galates. Ah oui, quand que les Galatiens ils ont eu un test, c'est qu'il y a eu un autre groupe qui avait une famine, puis ils ont demandé aux Galatiens d'aider. C'était comme un test qu'ils ont eu à faire pour voir quelle était leur générosité, comment est-ce qu'ils auraient été capables de donner pour aider ceux qui n'avaient de besoin. Fait que le fait qu'ils ont été demandés, Dieu a permis qu'il y ait une famine, Dieu a permis que ce groupe-là puisse entendre que l'autre groupe avait une famine, puis que là, Dieu a pu voir leur cœur, puis comment est-ce que leur charité profonde, puis même s'il n'y avait pas gros d'argent, ils ont fait de riches libéralités, ils ont donné beaucoup, fait qu'ils ont passé un test. Mais en réalité, ça pouvait être appelé une tentation dans le sens du grec. Voyez-vous, c'est juste pour vous donner. La deuxième manière de le voir, c'est au niveau du péché, une tentation qui survient quand tu as des désirs défendus. Des tentations de voler, tentations sexuelles envers quelqu'un que c'est pas ton conjoint, t'as pas d'affaires. Ça peut arriver des tentations. C'est le mauvais désir, tu trouves à passer un test encore pour voir si tu vas résister. Dieu s'y aurait voulu, là, en se convertissant, on n'avait plus de désir sexuel. On n'aurait jamais eu de pensée un peu. On n'aurait jamais eu de rien de toutes ces affaires-là dans toute notre vie s'il aurait voulu. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il nous délivre de certaines affaires en commençant, puis le reste de notre vie, il faut s'accrocher à lui. Mais on va avoir encore des tentations, mais il faut apprendre à résister dans la tentation. Il faut apprendre à combattre les tentations. Il faut apprendre à aller chercher la force à Dieu pour passer à travers les tentations. Fait que la tentation de notre corps qui a un désir impur, un désir que Dieu veut pas, c'est une épreuve pour voir si ton moi intérieur, ton je suis, est capable d'aller se connecter avec Dieu pour avoir la victoire dans la vie. Puis si je peux vous donner une affaire, une autre parole qui va vous montrer que vous n'êtes pas seul dans ce combat-là. Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Mais il a été tenté dans le sexe, il a été tenté des mauvaises pensées, il a été tenté dans toutes choses. Ça dit, mais il a tombé dans aucun péché. Mais nous, on est appelés à imiter Jésus, à aller chercher la force de Jésus, puis de résister comme Jésus.
Amen.
Gloire à Dieu. Troisième manière de tentation, c'est comme encore l'idée d'épreuve de Dieu par les hommes. La rébellion contre Dieu, là, les gens se rebellent contre Dieu, puis là, c'est comme s'ils tentent Dieu pour voir si Dieu va faire un jugement puis qu'il va les punir. Mais l'épreuve, c'est comme encore une épreuve, mais là, c'est pas envers l'homme, c'est Dieu, il est tenté de serrer à vis, il est tenté de faire un jugement. Fait que ça s'applique autant à Dieu qu'à l'humain. Il faut que les chrétiens passent par diverses épreuves pour être purifiés. Tout à l'heure, on a chanté, oui, je choisis d'être saint. Là, on demande à Dieu, purifie mon cœur, rends-moi aussi peu que l'or et l'argent. C'est basé sur un verset, ce chant-là. C'est un chant qui est biblique. Dans 1 Pierre 1, 6 à 9. Il faut que les chrétiens passent par des épreuves pour être purifiés. 1 Pierre 1, 6 à 9, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça ne dit pas que les épreuves vont durer toute la vie, mais il faut qu'on passe par des épreuves pour un bout de temps dans notre vie. Ça a un but, les épreuves. C'est ça que je vous disais tantôt. Y a-t-il un but? Dieu fait ça juste pour le plaisir? Non. Il sert de l'épreuve. Il sert des tentations pour nous former, nous forger, pour nous purifier. Pareil comme de l'or que tu veux la faire chauffer pour que le scorie va flotter à la surface quand l'or est rendu liquide, quand elle est chauffée. Puis là, tu peux enlever tout le mauvais qui est sur le dessus. Fait que l'or devient de plus en plus pur. Elle augmente en qualité. Il dit, il faut que vous soyez, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que de l'or périssable, l'épreuve de votre foi est éprouvée par le feu pour que vous ayez pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Les épreuves qu'on vit, c'est comme le feu qui fait fondre l'or, puis ça a pour résultat la gloire, de la louange et de l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Qu'est-ce qu'elle va avoir fait? Ça dit que à cause qu'on aura passé à travers, il dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Première chose que l'épreuve travaille, c'est notre foi. Allons-nous persévérer? Allons-nous utiliser tous les moyens pour passer à travers de notre épreuve? Ou on est dans le genre, je me laisse aller, moi je lâche tout, je suis tanné. Je veux plus rien savoir de la vie chrétienne. C'est trop tough. Ou on se renforcit, du Seigneur, tu as passé à travers le même chemin. Tu me demandes de passer à travers de ce chemin-là. Puis il nous dit dans d'autres passages, il n'y a pas d'épreuve qui est au-delà de nos forces. Puis avec la tentation, il donne aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Fait que Dieu, il est là dans nos épreuves. On dit, ça va mal, faut que je vende la maison d'ici à la fin du mois. Il faut que je paye tel bill ou tel problème dans mon corps ou des problèmes de toutes sortes. C'est des épreuves. Ça a le but de tester notre foi. On va-t-il avoir une foi victorieuse? On va-t-il avoir la louange, la gloire et de l'honneur lorsque Jésus va apparaître? Ou on va être passé pour des paresseux ou des lâches ou du monde qui ont décidé de tout abandonner? L'or est purifié par le feu, mais les épreuves purifient le chrétien. Puis on passe à travers par la foi, puis on lâche pas, puis on est de plus en plus fort quand on passe à travers. Ça nous a donné un boost. On réalise, hey, j'en ai tellement, moi ça fait 35 ans, je suis chrétien, j'en ai du chemin de fait. Ça renforcit, tu te dis, j'ai déjà ce chemin-là de fait, pas pour lâcher, le petit peu qui me reste, on continue. Il faut que vous ayez une attitude semblable, d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez déjà un bout de fait, c'est pas le temps de lâcher. Si je décide, là, parce que j'ai une épreuve, je lâche à soir, puis là, c'est à ma fin de ma vie, ce soir, je sors, puis je me fais frapper, je vais-tu me regretter de dire, pourquoi faire, j'ai pas continué une journée de plus? Mais il faut pas être des lâcheux, il faut être des gens qui s'accrochent à Dieu, puis on persévère. Les épreuves sont bénéfiques pour les chrétiens, puis ça produit en nous de la persévérance. Ça nous le dit dans Romains 5, les versets 3 et 4. Dans Romains, Paul il dit, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve, puis cette victoire, c'est l'espérance. » Les afflictions, c'est des épreuves. Puis il se glorifiait d'en avoir, il était fier d'en avoir. Y a-t-il quelqu'un qui est fier d'avoir des épreuves dans sa vie? Mais Paul, il était fier d'en avoir. Hein? Mais si on serait dans sa pensée, on serait comme lui. Si on n'est pas fier de nos épreuves, c'est parce qu'on n'a pas encore compris comment penser, comment prendre les choses de la bonne façon, comprendre le bienfait de l'épreuve. Qu'est-ce que ça peut produire en nous? Il dit, l'affliction produit de la persévérance. Quand tu es dans l'épreuve et ça va mal, mais quand tu en as passé une, deux, trois, mais tu deviens de plus en plus persévérant, tu es plus résistant, tu es plus résilient. Résilient, c'est que tu t'endures plus. Tu as couenne de plus en plus dur, dans un sens. Là, parce qu'on n'est pas des humains surhumains, on est des humains. Mais rempli du Saint-Esprit. Puis plus tu vas passer à travers de tes épreuves en t'accrochant avec les moyens de Dieu, plus tu vas devenir fort dans le Seigneur. Jésus, il les a toutes passées sans commettre aucun péché. Il était fort dans le Seigneur. Puis il nous demande de devenir comme lui. Ça nous dit que David, il priait Dieu afin d'être mis à l'épreuve. C'est-tu encore plus fort? De demander à Dieu de nous en donner plus d'épreuves. Mais il dit ça dans le psaume 139, le verset 23 et 24. Puis son but, il dit, quand je vais être dans l'épreuve, ça va révéler mon cœur. Puis là, on va voir s'il y a du pas bon dans mon cœur. C'est quand que ça va mal qu'on s'aperçoit de la qualité d'un chrétien. S'il se met à sacrer, puis il se met à crier, puis à tout casser, il n'y a pas de force pantoute. Si c'est un gars qui endure, puis il prie, puis il se confie en Dieu, puis il persévère, il y a déjà du chemin de fait dans le Seigneur, ce gars-là. Puis il faut arriver à être comme ça, frères et sœurs. David, il dit, dans une prière à Dieu, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu. » Et connaît mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Là, il demandait à Dieu d'être sondé par Dieu, puis il demandait à Dieu de l'éprouver, de lui mettre des épreuves, lui rendre ça plus dur. Puis là, quand il était plus dur, les vraies pensées de David sortaient. Là, il voyait les mauvaises pensées. Là, Dieu pouvait intervenir pour enlever ces mauvaises pensées-là, ou ce qui cause ces mauvaises pensées-là. Parce qu'on a des pensées, mais souvent, c'est plus creux. La racine est plus creuse. Des fois, c'est des blessures, des fois, c'est des attitudes. Si on est orgueilleux et on n'aime pas ça, se faire dire une affaire. Là, on fait des gaffes, puis là, ils sont obligés de venir nous reprendre. Puis là, on réagit. On n'est pas capable d'écouter. On a de la misère à se faire dire une affaire. Mais c'est de même qu'on est renforcé quand on réalise que, oui, c'est vrai que je suis comme ça. Puis là, tu t'humilies, puis tu le confesses. Oui, c'est vrai que j'étais comme ça. Puis le fait que tu t'es humilié, puis tu passes dans le chemin de l'obéissance, tu vas être béni par Dieu. C'est là que Dieu a fait déjà une œuvre en t'amenant dans l'humilité, puis tu passes de même. Ceux-là qui sont capables d'accepter de se faire reprendre, bien, ils passent facilement. À chaque fois qu'ils font une erreur, c'est tellement facile pour eux de passer à travers leurs erreurs, même s'ils se font faire des reproches, ils ont appris à admettre que oui, c'est vrai, je suis un pécheur, puis je le regrette, puis ils passent comme ça. L'autre qui résiste, lui, c'est le contraire. Il veut pas se faire dire à rien, puis il va se donner des menteries en plus, il va pécher davantage pour essayer d'abrier son erreur, puis son problème, il amplifie. Fait que l'épreuve, elle a du bon pour dévoiler le fond du cœur. Puis, il faut apprendre à passer à travers nos épreuves avec la bonne façon de Dieu. Puis c'est de même qu'on grandit, qu'on est capable de persévérer, on devient de plus en plus solide dans le Seigneur. Mais c'est un chemin, l'épreuve, je vous le dis d'avance, c'est un chemin d'humiliation. On l'a vu la semaine passée, il y a deux semaines, il dit que le frère de condition humble se glorifie de son humiliation. Mais est-ce que quand tu es en train de subir des épreuves, des difficultés, puis tout ça, tu es en train de te faire humilier, mais sois fier que tu es en train de te faire humilier parce que c'est le Seigneur qui est en train de te rendre humble, puis il veut te bénir au maximum. Dieu bénit les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il faut apprendre à s'humilier. Puis c'est une main, ça passe comme ça. Fait que la mise à l'épreuve, c'est bon. Si on la voit sur le bon bord, ça va dévoiler notre cœur. On va comprendre plus comment est-ce que les mauvaises pensées qui ressortent. Puis on peut demander à Dieu après ça de faire le ménage. Nous sommes appelés à supporter les tentations et en sortir victorieux, mais il faut utiliser les moyens de Dieu pour être renforcés. Autant que j'ai besoin des yeux de Dieu pour voir l'épreuve de la bonne façon, mais autant j'ai besoin des moyens de Dieu aussi pour passer à travers l'épreuve. Parce que si je ne vais pas chercher les moyens de Dieu, je ne serai pas capable de passer. Je vais vous en donner deux ce soir des moyens de Dieu. C'est des moyens de base que tout le monde connaît. Mais s'ils ne sont pas dans vos vies ou dans ma vie, on ne passera pas à travers les épreuves. Le premier moyen que Dieu veut que vous utilisiez dans votre vie pour être capable de passer dans l'épreuve et avoir la victoire, commencez à prier tous les jours. Parce que c'est la prière que j'avais besoin, la présence de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. Sans cela, on est dans nos forces humaines, puis c'est zéro pour passer le test devant Dieu. On passe pas les épreuves. Faut être capable de les passer avec rempli du Saint-Esprit. Paul dit telle affaire dans telle situation. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il faisait rien sans être rempli. Il cherchait à être rempli tout le temps. Il voulait avoir l'inspiration de Dieu, il voulait avoir les paroles de Dieu, il voulait avoir les sentiments de Dieu, il voulait avoir la direction de Dieu. Fait que c'est en prière, devenez des hommes et des femmes de prière. Marc 14, 38, je vais vous lire rapidement. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je vous rechange la phrase. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Parce que le mot tentation puis épreuve, c'est le même mot. C'est une épreuve, votre tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans l'épreuve. Tu as besoin de prier pour être connecté, pour être rempli de la force de Dieu, pour rester debout dans ton épreuve. Tu as le droit de tomber à genoux dans ton épreuve. Tu as le droit de tomber à genoux.
Ça l'aidera
même. C'est la seule manière que tu peux tomber. C'est là même que tu vas devenir plus fort. Mais c'est pas tomber dans l'épreuve dans le sens que tu l'as tout abandonné. Mais tu as le droit de tomber à genoux puis tu vas devenir plus fort. Amen. Puis l'autre verset que je vais vous lire, le dernier verset, pour l'autre place qu'il faut se renforcer, frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu. C'est encore une autre affaire qu'il faut aller chercher, se nourrir tous les jours. Il y en a des passages qui disent de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est une force. Si on n'a pas les versets frais, on est moins fort. Je le sais par expérience. Puis moi, j'aime ça, là. J'aime ça, soit la lire ou le. Mais j'aime méditer ou l'écouter parce que je l'écoute beaucoup. Regardez dans Matthieu 7, 24, 25, dernier verset pour ce soir. Jésus veut qu'on les garde, ces versets, sa parole. Il veut qu'on la garde dans notre cœur, qu'on bâtisse notre vie là-dessus. C'est ce qui est le plus important pour être une maison bâtie sur le roc, à toute épreuve, qui résiste à toute épreuve. Parce que tu es bâti sur le roc. Matthieu 7, 24, 25. C'est pourquoi quiconque... Qui ça, quiconque? C'est tout le monde. Quiconque. Y a-tu quelqu'un qui pense qu'il ne fait pas partie des quiconques? Hein? Des quiconques. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis puis les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Y a-tu de quoi de plus solide que du roc? Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est le roc. Puis t'entends les paroles de Jésus, mais elle en pratique. Mais t'as besoin de les entendre puis de les mettre en pratique. C'est pas juste... Tu peux pas les mettre en pratique si tu les entends pas, si tu les sais pas. C'est pour ça qu'il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Pour être capable de la mettre en pratique, tu es en train de bâtir ta maison sur le roc. Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voulez-vous être fort dans le Seigneur? Les deux affaires qu'il faut avoir dans notre vie, prière et la parole de Dieu. Nourrissez-vous puis mettez-la en pratique. Pas se tromper puis se mêler puis dire, oh non, moi, ça c'était dans ce temps-là. Oh, ça, ce verset-là, il est bon pour lui. Puis là, on est bon pour les jeter pour les autres. Au lieu de voir, hey, les disciples mettaient ça en pratique, là, ben moi tout, faut que je mette ça en pratique. Bâtissons nos maisons sur le roc. La pluie va venir, le vent va venir, les torrents vont venir, puis ça va se jeter contre la maison. Il n'y a aucune maison qui subira pas ces assauts-là. Jésus a dit dans cette parabole-là, j'ai pas lu l'autre bout, qui disait, il y en a qui veulent pas rien savoir de la parole, sont bâtis sur le sable, puis le vent, puis le torrent, puis la pluie est tombée, puis la ruine de cette maison a été grande. Elle tombe, elle tient pas, elle est démolie, puis il n'y a plus rien. Les ceux qui vont vivre éternellement, c'est ceux qui ont appris à prier, ceux qui ont appris à bâtir leur vie sur la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, puis à mettre en pratique, ils vont être solides, puis n'importe quoi va se jeter contre eux autres, n'importe quelle épreuve ou tentation, puis ils vont rester debout. C'est ce que Jésus dit. On veut-tu rester debout? Amen. Mais on va prier. Le premier verset que j'ai lu ce soir, « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Aimez-vous le Seigneur assez pour être capable de passer à travers patiemment les diverses épreuves? Si vous, j'entends pas de réponse, l'aimez-vous assez le Seigneur? Mais si vous l'aimez le Seigneur, là, nourrissez-vous puis priez. Puis vous allez être debout lorsque Jésus va revenir. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces beaux versets-là qui veulent nous amener à se renforcer dans le Seigneur, puis à se sentir heureux même dans les épreuves, parce que tu es en train de travailler dans nos vies. Mais donne-nous cette foi, cette force, cette hardiesse de combattre, puis de persévérer jusqu'à la fin. Je te demande de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous mettre en nous un cœur de prière, puis d'intercéder à chaque jour, puis de lire ta parole, puis de méditer ta parole, puis de mettre en pratique ta parole à chaque jour, afin de grandir, puis d'être solide. Puis merci, Seigneur, de nous renforcer pour qu'on soit capable de rester debout jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. Je te remercie, Seigneur, pour tes belles promesses, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.